Bienvenue à tous dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Au programme du Labomatique cette semaine, il sera question d'histoire de l'art et plus précisément du cinéma, en compagnie de mon invité Jean-François Cornu, auteur de Le doublage et le sous-titrage Histoire et esthétique, paru aux presses universitaires de Rennes au mois d'octobre 2014. Ensemble, nous aborderons les pratiques de doublage et du sous-titrage dans une perspective soucieuse d'en questionner la dimension esthétique dans les processus de production et de réception des œuvres d'art cinématographiques.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus.
Jean-François Cornu, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes traducteur depuis 1985, membre de l'Association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel. Vous êtes par ailleurs co-rédacteur de L'écran traduit, une revue électronique sur la traduction audiovisuelle. On voit tout de suite dans cette présentation que vous êtes un praticien avant d'être un chercheur. Nous pourrions peut-être revenir d'ailleurs sur votre activité professionnelle, puisqu'elle me semble bien éclairer le pourquoi du comment de cette publication aux presses universitaires de Rennes.
Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait maintenant 30 ans oui, déjà que je pratique ce métier. Alors, je me suis spécialisé dans le sous-titrage assez vite. En fait, je fais des études de langue quand j'étais étudiant, des études d'anglais. Et cherchant à faire tout sauf l'enseignement, je me suis orienté vers la traduction. Et puis, ça a correspondu au moment où démarrait la première formation universitaire en la matière à l'Université de Lille 3. Mmh. Et donc, j'ai fait cette formation en 84. Et puis ensuite, démarrer dans le métier l'année suivante. La raison principale de ce livre qui en est l'aboutissement, ou en tout cas une phase, c'est que lorsque j'ai commencé dans le métier, au milieu des années 80, j'ai toujours eu envie de savoir comment ce métier-là avait commencé lui-même, c'est-à-dire plusieurs décennies avant, au début des années 30, avec l'arrivée du cinéma parlant, comment les premiers sous-titres avaient été faits, par qui et de quelle manière, pour quel film, et même chose pour le doublage. Même si en tant que traducteur, j'ai très peu exercé en doublage, j'ai fait réaliser un seul doublage pour un film que j'ai également sous-titré en collaboration avec une collègue traductrice. Ça m'a toujours intéressé de savoir comment ces deux méthodes principales de traduction des films étaient nées.
D'accord, bon, ouais, ça va être un peu l'objet de notre discussion aujourd'hui, vous vous en doutez. Alors, en histoire de l'art, comme en sciences humaines et sociales plus généralement, on connaît bien la dimension cumulative de la recherche universitaire. C'est-à-dire que les recherches d'aujourd'hui se nourrissent toujours des apports de leurs aînés. Moi, je me demandais donc si la recherche en esthétique ou en histoire du cinéma, elle s'était déjà saisie ou pas de cette histoire des pratiques du doublage ou du sous-titrage.
Alors, à ma connaissance, non. Aussi bien dans la recherche francophone que dans d'autres langues, ou principalement anglophones. À ma connaissance, non. Et c'est pour ça que mon livre, toute modestie mise à part, là, pour le coup, vient combler une certaine lacune. Mais c'est en même temps dans l'air du temps. Alors, c'est un livre qui est le résultat, en fait, d'une thèse universitaire que j'ai soutenue il y a maintenant 10 ans, déjà, fin 2004. Mais des éléments supplémentaires m'ont amené à enrichir cette recherche et puis à en faire surtout ce qui en avait été le point de départ dans mon esprit depuis toujours, c'était d'en faire un livre qui soit accessible à un public plus large que celui de la communauté universitaire.
Oui, parce que c'est ça, c'est un livre qui est assez accessible finalement, c'est pas de l'histoire de l'art avec un monceau de théories qu'on aurait beaucoup de mal à s'approprier, c'est un peu ça aussi l'avantage de ce livre.
Alors, j'espère, je suis sans doute aujourd'hui le moins bien placé pour le dire, c'est plutôt au lecteur de le dire, mais je ne suis pas un théoricien, ça c'est certain. Ouais, moi, je suis parti à la fois de ma pratique de traducteur et puis d'une prise de distance par rapport à cette pratique pour voir ce qui s'était fait avant, dans quelles conditions. Et ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est que on ne peut pas simplement s'intéresser à une traduction, que ce soit un sous-titrage ou un doublage de film, sans en connaître les conditions, le contexte à la fois historique et économique, commercial, linguistique aussi, évidemment, aussi bien pour la langue du film que pour la langue vers laquelle il a été traduit. Et c'est ce qui m'intéresse. De même que quand on traduit un film, contrairement peut-être, même sûrement à d'autres formes de traduction, on ne traduit pas qu'un texte. On prend en compte l'ensemble de ce qu'est un film, c'est-à-dire l'image, le son, les voix, enfin le dialogue évidemment pour ce qui nous concerne ici, mais c'est un tout indissociable.
Un espèce de phénomène social total, si on reprend la formule célèbre de l'anthropologue Marcel Mauss en quelque sorte.
Oui, si on veut, oui. Ouais. Oui. Et effectivement, il n'y avait rien quand j'ai entrepris cette recherche, donc à la fin des années 90, aussi bien en français qu'en anglais, à s'intéresser effectivement à la traduction des films, mais non pas d'un point de vue traductologique, parce que ça, c'est devenu plus fréquent dans la recherche universitaire depuis, disons, une dizaine, quinzaine d'années, où chercheurs qui s'intéressent, qui ne sont pas forcément traducteurs, mais qui s'intéressent à l'évolution de la traduction, à différentes formes de traduction, ont petit à petit se sont intéressés à la traduction audiovisuelle et cinématographique. Mon point de vue est différent dans la mesure où mon livre n'est pas du tout un manuel de traduction, ni savoir comment on traduit, même si on apprend aussi en le lisant quelle est ou quelles sont les différentes pratiques des traducteurs au fil du temps. Mais mon point de vue est plutôt celui des études cinématographiques, où je considère que la traduction des films est un métier parmi d'autres, ou en plus dans la chaîne de fabrication d'un film. D'accord. Aussi bien que les différents métiers qui ont lieu au moment du tournage, celui de chef opérateur, de comédien, bien entendu, de métiers comme ça, et de métiers qui suivent ensuite au moment de la phase de post-production, comme le montage, le mixage, etc.
En quelque sorte, vous redonnez aussi un peu sa place aux traducteurs et aux gens qui vont faire le doublage dans la chaîne de production, en fait, de l'œuvre d'art cinématographique. C'est un peu l'objet de ce bouquin, finalement.
Voilà, c'est ça, parce que quand on pratique ce métier, on se rend compte qu'on ne fait même pas partie de la troisième phase principale de fabrication d'un film. La première étant ce qui vient avant le tournage, c'est-à-dire toute la préparation, l'idée du, en tout cas pour les films de fiction. Une phase préparatoire très importante avec les films de fiction qui concerne notamment la rédaction du scénario et des dialogues. Ensuite vient le tournage et ensuite tout ce qu'on appelle la post-production, tout ce qui vient après le tournage et qui consiste à monter le film, à faire la post-synchronisation des voix, parce que c'est quand même très courant, le mixage et puis le produit fini, si on peut dire. Et les phases de doublage et de sous-titrage viennent encore après cela, parce que, par définition, elles ne relèvent pas, ou assez rarement, de la production proprement dite d'un film, puisque le doublage et le sous-titrage servent pour l'exploitation à l'étranger, donc hors de l'ère linguistique d'origine du film. Et les opérations de doublage et de sous-titrage, à la fois les opérations techniques et la phase de traduction, sont commanditées par le distributeur du film dans le pays concerné. Donc ça vient après la post-production qui vient immédiatement après le tournage, parce qu'il peut se passer parfois un certain temps, quelques mois, voire quelques années, entre la fin d'un film et son exploitation dans son pays d'origine et sa diffusion dans d'autres pays.
Alors, on le disait, il n'y avait pas énormément de choses qui existaient au moment de la rédaction de cet ouvrage. On d'abord d'une thèse de doctorat, comme vous l'avez rappelé, puis ensuite de l'ouvrage. Il n'existait pas grand-chose sur la question du doublage et du sous-titrage d'un point de vue historique, comme vous le proposez. Bon, cependant, vous avez quand même eu recours à certains matériaux, en termes méthodologiques, j'ai envie de dire. Donc, des matériaux qui consistaient d'une part à regarder des heures et des heures de films, j'imagine, mais d'autre part aussi à avoir recours à certaines archives, me semble-t-il.
Oui, alors effectivement, paradoxalement, ce ne sont pas les films qui ont été ma première source. Alors ça a l'air très curieux quand on fait une recherche sur le cinéma. Mais étant donné que le cœur de la partie historique de mon livre cherchait à savoir exactement ce qui s'était passé au début du parlant, puisque c'est avec le cinéma parlant que c'est accru et généralisé la nécessité de traduire les films. Je fais une parenthèse, ça ne veut pas dire qu'on ne traduisait pas les films avant, au temps du muet. La traduction était nécessaire également parce que les films muets, comme vous le savez, avaient toute une dimension linguistique à travers les cartons, ce qu'on appelle les intertitres aujourd'hui, et qui avaient eux aussi besoin d'une forme de traduction. Mais moi, je me suis intéressé à ce qui s'est passé à partir du moment où le cinéma est devenu parlant, sonore et parlant, et puis surtout les problèmes de diffusion que ça exposer dans un premier temps aux films étrangers, principalement américains, des moyens qu'on a essayé de trouver pour surmonter cette difficulté linguistique nouvelle, entre guillemets. En tout cas, plus importante que pendant au temps du muet et sous une autre forme. Alors, effectivement, c'est aussi pour ça que je ne me suis pas intéressé d'abord au film. Parce que pour savoir quels films sont particulièrement intéressants pour juger sur pièce de la qualité ou même simplement de l'observation d'un doublage du début des années 30 ou d'un sous-titrage de la même période, il faut savoir vers quel film aller. Et pour savoir vers quel film aller, il faut d'abord consulter des sources écrites. Et ces sources écrites sont essentiellement les périodiques professionnels qui étaient publiés à l'époque. Dans le cas qui m'intéressait, puisque je m'intéressais surtout, enfin essentiellement au doublage et au sous-titrage des films étrangers en France, je me suis intéressé, enfin j'ai consulté certains périodiques professionnels français, mais aussi pour les toutes premières années de la décennie 1930, à des périodiques américains, puisque le principal problème s'est posé d'abord pour les Américains, pour les studios hollywoodiens, dont, pour lesquels le territoire français, enfin la France était un territoire commercial et économique extrêmement important, parce que très rentable. Et donc, tout d'un coup, la sorte de frein très bref, qui a duré quelques mois tout au plus, à la diffusion du cinéma américain en France, il fallait que ce frein soit supprimé le plus rapidement possible. Mais c'était également intéressant donc, de consulter certains périodiques américains pour voir quel était leur point de vue. Et comme il se faisait, en particulier le principal qui s'appelle Variety, ou Variety en anglais, se fait l'écho chaque semaine très régulièrement à cette période-là de la position des différents studios, ce qu'on appelle les majors américaines, et rend compte de à la fois des stratégies commerciales qui sont envisagées, les unes sans lendemain, les autres qui vont prendre
un peu,
qui vont se pérenniser effectivement. Ouais. Là, on a des sources d'informations très intéressantes, à la fois sur donc, les films en question, les films concernés, parce que tous les films ne sont pas forcément concernés, en tout cas au début, et puis sur les personnes qui ont été impliquées dans ces premiers balbutiements du doublage et du sous-titrage.
Le Labomatique.
L'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Il est vrai que je me suis concentré exclusivement sur le cinéma, donc sur les films qui sortent en salle, sur l'exploitation des films étrangers dans les salles françaises. Il est tout à fait juste que, surtout aujourd'hui, une comparaison ou une analyse en parallèle de ce qui se fait, de ce qui continue à se faire pour les films exploités en salle et les séries télévisées serait intéressante. Mais c'est vrai que je ne m'y suis, ça n'a pas été l'objet de mon ouvrage parce que je voulais d'abord essayer de combler autant que faire se peut, sans prétendre à avoir comblé tout à fait la lacune, vraiment d'un point de vue cinématographique et historique. De manière aussi à pouvoir, puisque mon livre comporte une partie, disons, esthétique, sur là, qui concerne plutôt l'analyse des films et de ce que deviennent les films lorsqu'on en modifie une partie de la bande-son avec le doublage ou lorsqu'on en modifie l'image par l'adjonction de sous-titres dans l'image. Et là, d'un point de vue plus du tout chronologique ou historique, mais plutôt thématique, il me semblait, un peu comme je le disais au début de notre entretien, que sans connaître les conditions de réalisation des versions doublées ou sous-titrées en fonction des époques, des moyens techniques à disposition, des habitudes de jeu pour les comédiens de doublage et également des outils techniques à la disposition des traducteurs et des prestataires techniques, on peut facilement faire des erreurs d'interprétation si on s'intéresse à un film sous-titré au lendemain de la guerre. Mais qu'on ne sait pas que les sous-titres qu'on voit ont été faits au lendemain de la guerre, on peut avoir, et qu'on l'analyse avec nos lunettes d'aujourd'hui, comme si c'était un sous-titrage aujourd'hui, on risque de faire des erreurs d'appréciation.
On fait preuve d'anachronisme.
Également.
Dans ce cas-là, d'accord. Oui. Alors ça peut peut-être nous permettre, cette réponse assez fournie, d'aborder peut-être plus frontalement donc, les pratiques de doublage et de sous-titrage, puisque dans le titre de cet ouvrage figurent donc, les termes histoire et esthétique. Donc il s'agit pas de réduire le doublage et le sous-titrage à de simples opérations techniques dans cet ouvrage, mais de considérer leur place dans la production et la réception des œuvres. Pourtant, ce sont quand même des techniques éprouvées, dont les procédés requièrent de la technicité, mais dont la méthode n'a finalement pas beaucoup évolué, il me semble, depuis ses débuts. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire le processus de production du doublage et du sous-titrage, pour que les auditeurs soient bien tous au clair avec ces techniques-là ?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'elles, finalement, à part les outils techniques qui ponctuellement ont évolué avec le temps, le principe reste le même, aussi bien pour le doublage que pour le sous-titrage. Alors en doublage, je peux décrire les choses telles qu'elles se faisaient dès le départ, parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup changé sur le principe par rapport à aujourd'hui. L'idée de toute façon, l'idée donc le principe même du doublage, c'est de remplacer les voix originales par des voix parlant français, puisqu'on parle de diffusion des films étrangers en France, et de réussir à donner l'illusion que ces voix sont celles qui correspondent au corps que l'on voit, à l'image que l'on voit sur l'écran. Tout en sachant très bien, le spectateur le sait, et les professionnels qui font ce travail-là savent aussi que le spectateur n'est pas dupe, mais du point de vue du spectateur, on accepte cette convention et cette illusion que, tout en sachant qu'un film se passe aux États-Unis à telle époque ou dans n'importe quel autre pays du monde, même aujourd'hui, si l'on voit des Russes, des Chinois ou des Japonais sur un écran dans un film de fiction et qu'on les entend parler français, on sait très bien que c'est par l'artifice du doublage. Bien. Alors, ce principe étant posé, pour que l'illusion soit la plus réussie, il faut parvenir à un synchronisme, notamment au niveau des lèvres et des mouvements de bouche, qui soit le plus parfait possible, de manière à ce que on croit, même si l'on n'est pas dupe, que le personnage que l'on voit agiter ses gestes, son corps et surtout sa bouche, parle effectivement français. Alors, pour y arriver, il y a eu pendant plusieurs décennies deux méthodes qui ont été mises au point assez vite au début du doublage, qui consistaient à enregistrer le dialogue, soit dans un premier cas avec une méthode qu'on a fini par appeler le doublage à l'image, c'est-à-dire en se fiant surtout à l'image et avec des comédiens qui apprennent un texte à l'avance, comme ils l'apprendraient pour tourner vraiment devant la caméra ou sur scène également, pour le théâtre, mais qui n'ont comme guide que ce que font les acteurs à l'image.
Un côté intuitif, finalement.
Voilà, un côté intuitif, mais qui a l'avantage de favoriser un certain naturel. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un comédien connaît bien le texte qu'il a à dire, et souvent, pour chaque fragment du film à enregistrer, un film ne s'enregistre pas sur sa longueur en une seule fois. Un film d'une heure et demie ou d'une heure quarante s'enregistre vraiment par tout petits fragments, parfois de quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Et parfois même, les comédiens ne sont pas tous là au même moment. Toutes sortes de questions d'emploi du temps de chacun. Mais il y a évidemment une phase que j'ai oublié de mentionner qui est quand même importante pour ce qui nous concerne, c'est qu'avant de pouvoir dire ce texte,
Il
faut qu'il soit traduit. Donc là interviennent des traducteurs. Alors c'est là que c'est le plus difficile, d'un point de vue historique, de savoir exactement qui traduisait au début du doublage. Et pour le sous-titrage aussi, bien qu'on ait un petit peu plus de renseignements. En doublage, en fait, ce que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant, c'est que le dialogue original était traduit par un traducteur ou une traductrice qui sont restés anonymes. Pour l'instant, j'ai pas eu, à quelques exceptions près, de traces de nom proprement dit de traducteur. Et ensuite, cette traduction que j'ose espérer plus que littérale, était retravaillé par éventuellement par des comédiens, mais aussi par une fonction qui est devenue, qu'on a fini par appeler celle de directeur artistique. Mm-hmm. C'est une sorte de metteur en scène du doublage. À cette phase-là, entre la traduction première, si on peut dire, et les dialogues effectivement enregistrés par le comédien, il y a un travail de remise en forme, très probablement, qui a été effectué par ce fameux directeur artistique.
Dès les débuts, donc.
Oui. Oui, d'accord. Très, très, très tôt, oui. Mm-hmm. L'autre méthode d'enregistrement, au lieu d'être fondée sur l'image qui joue le rôle de guide pour les acteurs, consistait en un procédé un peu plus mécanique, si on peut dire, qui existe toujours, qui est celui qu'on appelle, qu'on a dénommé au fil du temps la bande rythmo, parce que ça venait d'un procédé initialement allemand, mais il y en avait un français équivalent qui consistait à utiliser une bande sur laquelle, dans un premier temps, on retranscrivait les sous-titres. Les dialogues originaux du film, et auxquels on associe un certain nombre de codes qui peuvent éventuellement évoquer la sténographie, même si la sténographie aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus ce que c'est, grâce à l'informatique ou à cause. De codes de toutes sortes, constitués de signes indiquant les mouvements de bouche. Et les mouvements d'ouverture de bouche, les mouvements de lèvres, puisque c'est la pierre angulaire du doublage, et qui permettait ensuite, sur cette même bande, d'ajouter les dialogues traduits, mais tenant compte de ces fameuses ouvertures ou mouvements de bouche. Et cette bande était ensuite retranscrite sur une autre bande, calligraphiée à la main, et cette calligraphie reprenait les dialogues traduits, qui ensuite, donc sur cette bande était projetée, et l'est toujours d'ailleurs, sous l'image au moment de l'enregistrement par les comédiens, dans un auditorium. Et ce qui veut dire que, à la différence de l'autre méthode où les comédiens devaient apprendre leur texte à l'avance, aussi minime soit-il, même si c'était juste une réplique, là, les comédiens n'ont pas besoin d'apprendre du tout, puisqu'ils vont avoir le support écrit sous les yeux, qui défile de droite à gauche, donc dans le sens de lecture du français. Au moment de l'enregistrement, ils ont l'image muette du film original, ils voient donc les acteurs qu'ils sont en train de doubler, et voient le dialogue à prononcer, à dire devant le micro, au moment précis qui correspond au mouvement de bouche du film original.
Vous avez précisé un travail de calligraphie, c'était une personne était payée pour faire ce travail.
Voilà, absolument. La chaîne du doublage répondait à une division du travail très très précise où on commençait par la détection des dialogues, c'est-à-dire leur transcription sur cette fameuse bande, donc les dialogues originaux. Ensuite, la bande passait entre les mains d'un traducteur ou d'une traductrice qui rédigeait ces dialogues. Il fallait ensuite les vérifier avec le directeur artistique pour veiller effectivement au bon synchronisme, au fait aussi que ce soit des dialogues qui puissent être joués, pas simplement compréhensibles de façon écrite, mais qui soient
qui répondent à une certaine oralité aussi.
Voilà, absolument. Qu'on ait bien en bouche pour le comédien. Et ensuite seulement, si, une fois que le dialogue était validé par le directeur artistique, la transcription, donc la calligraphie sur la bande rythmo, pouvait être réalisée, en général par des femmes, parce que c'était un métier très féminin. Et ensuite venait la phase de l'enregistrement proprement dit.
D'accord.
Avec les comédiens. Et une fois que l'enregistrement est terminé, le doublage n'est pas lui-même encore terminé, enfin tout le processus, puisque la dernière phase est celle du mixage, c'est-à-dire de l'intégration de la bande de son ne comportant que les dialogues doublés avec le reste du son du film, c'est-à-dire la musique, les bruits, les sons d'ambiance, éventuellement des voix de la version originale mais qui ne sont pas intelligibles, dont on ne reconnaît pas la langue, mais par exemple un brouhaha dans une foule,
dans un hall de gare,
voilà, et d'arriver à une bonne. Le rôle du mixeur à ce moment-là, de mixeur de doublage, est vraiment de bien intégrer l'ensemble de ces sons qui, a priori, sont disparates et n'ont pas été créés pour aller tout à fait ensemble, surtout avec le son du doublage, de manière à avoir une bande son homogène qui sera bien perçue par le public ensuite.
On n'a pas encore parlé des conventions propres au sous-titrage. Elles sont nombreuses, il me semble. Je sais, par exemple, la seule connaissance que j'ai à ce niveau-là, c'est que ça n'excède jamais deux lignes pour éviter d'encombrer l'écran. Si vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur les conventions propres au sous-titrage.
Oui, absolument, ce qui va nous permettre aussi d'évoquer le déroulement d'un sous-titrage de A à Z avec des étapes qui sont moins nombreuses qu'en doublage. Mmh. Alors effectivement, aujourd'hui, on est habitué au sous-titre qui fait une ou deux lignes maximum en bas de l'écran, en tout cas pour le français ou les langues européennes. Ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'au tout début du sous-titrage, donc à la même période, au tout début des années 30, aucune convention n'avait encore été adoptée. On fait souvent du sous-titre un héritier de l'intertitre du muet, c'est-à-dire du carton, sauf que les cartons du muet pouvaient comporter beaucoup de textes à lire. Il se divisait en gros en deux grandes catégories, soit un texte narratif qui permettait de suivre le déroulement de l'histoire, et puis des cartons consacrés au dialogue, enfin, ou en tout cas qui rendaient une partie des dialogues effectivement prononcés par les comédiens au moment du tournage, mais mm-hmm. qu'on ne pouvait par définition pas entendre.
Ouais.
Voilà. Et donc, parfois, les intertitres pouvaient être remplis du haut en bas de l'image de texte. Pas toujours, mais ça pouvait arriver. Avec le sous-titrage, la différence, c'est que d'abord, le sous-titrage ne rend compte que du dialogue et non plus de choses qui seraient plus narratives 5 ans plus tard ou revenons 30 ans en arrière ou des choses comme ça qui étaient courantes dans les intertitres du muet, mais qui ont disparu des sous-titres pour le cinéma parlant. Ce qu'on lit dans les sous-titres, a priori, sauf cas exceptionnel, ou en tout cas, oui, ça ne concerne que les dialogues, sauf quand on a des choses écrites dans l'image originale, par exemple des titres de journaux, des lettres, des panneaux indicateurs. Là, le sous-titre rend compte aussi de ce qui est écrit, mais principalement, il ne s'occupe que du dialogue. Et donc au tout début du sous-titrage de film, on n'avait pas ce genre de convention et il est assez courant de voir dans des films sous-titrés à cette période-là, des sous-titres de 3 lignes. Bon, ça va rarement au-delà parce qu'en plus, il arrivait que les caractères d'imprimerie utilisés soient relativement gros, d'assez grande taille. Et donc, quand on a 3 lignes de gros caractères, on arrive facilement à cacher un tiers, voire presque la moitié de l'image. Donc, c'est quand même gênant pour la perception de l'image et de ce qui se passe dans le cadre. Il y a même eu, je pense que ça n'a pas été très fréquent, mais je cite un cas parce que c'est celui que je le connais mieux, d'un film allemand qui s'appelle en français « Jeunes filles en uniforme », qui est un film de 1931, et où on a même, dans certaines scènes, des sous-titres qui apparaissent verticalement, presque en colonne, sur la droite de l'image, avec des césures comme dans un livre, avec un mot coupé en deux et un trait d'union avec retour à la ligne. Alors là, aujourd'hui, c'est une curiosité, mais ça ne facilite pas la lecture. Ça, c'est évident. Et la raison de cette disposition un peu étrange, c'est que dans certains plans où les sous-titres sont disposés de cette manière-là, on a une zone au bas de l'image qui est très blanche à cause d'un élément de décor qui est blanc à l'écran. Et la superposition de lettres blanches qui était avait tendance à se noyer dans l'arrière-plan blanc de l'image. Oui. Pour en revenir au processus de réalisation d'un sous-titrage, je vais commencer, là, contrairement au doublage, à dire comment on le fait aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un changement important à une certaine période qui fait que deux phases ont été inversées. Aujourd'hui, il y a une première phase qui consiste, avant de traduire, à déterminer l'emplacement futur des sous-titres sur tout le film, sur toute la durée du film. Et donc, on fait une sorte de mesure, ou plutôt de repérage, et cette étape-là s'appelle justement le repérage, du début et de la fin de chaque réplique, ou s'il s'agit de répliques longues, un monologue par exemple, de découpage de ce monologue en unités qui sont cohérentes, hein, en fonction à la fois des phrases par rapport à la syntaxe, mais aussi de la façon dont le comédien les dit à l'écran, parce que syntaxiquement, on peut avoir quelque chose de cohérent, mais qui, à cause du débit ou d'interruption entre guillemets pas naturelle de la part de l'acteur vont imposer un certain découpage au sous-titre. Et puis ce qui est fondamental dans le sous-titrage et qui impose aussi un certain rythme au sous-titre, c'est un peu le pendant du synchronisme labial en doublage. La pierre angulaire, là aussi, c'est quelque chose d'un tout autre ordre, mais qui est le changement de plan. C'est-à-dire que quand une image nouvelle arrive à l'écran, alors qu'un comédien continue à parler, on évite de faire chevaucher un changement de plan par un sous-titre. Tout simplement parce que, instinctivement, quand on voit un nouveau plan arriver, l'œil, ou le cerveau plutôt, se met à se dit « Tiens, tout est nouveau, donc je relis toute l'image. »
Il y a une
césure,
en fait.
Voilà, c'est ça. Il y a l'œil fait une lecture de l'image qui n'est pas du tout celle de la lecture d'un texte, qui va dans tous les sens, en fonction de ce qui est visible à l'écran. Mais il se trouve que si le sous-titre, lui, n'a pas changé, l'œil croit percevoir, ou plutôt notre cerveau, à nouveau, croit percevoir un nouveau texte aussi, et se met à relire le même sous-titre. Mais comme le sous-titre était déjà apparent depuis quelques secondes, il va bientôt disparaître et on n'a pas le temps de le lire jusqu'au bout. Donc on évite, autant que faire se peut, ce type de chevauchement. L'ennui, oui, parce que du point de vue des sous-titreurs, c'est quand même un ennui, c'est que le montage depuis 15 ou 20 ans a subi, pour la plupart des films, pas pour tous, mais pour beaucoup, un phénomène de resserrement, de raccourcissement des plans qui fait que souvent, on se retrouve contraint de chevaucher un changement de plan.
C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'aujourd'hui...
Quand un plan fait simplement deux secondes...
Aujourd'hui, on multiplie beaucoup. On est dans une espèce d'excès aussi du nombre de plans. On voit ça beaucoup dans les clips de musique, mais au cinéma aussi. On impose aux spectateurs d'avoir un rythme très important au niveau de l'image. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être tendance à avoir justement des sous-titrages qui se superposent avec différents types de plans. Un même sous-titrage survit à 3, 4, 5 plans, peut-être.
Ça peut arriver, oui, qu'on aille jusqu'à 3 plans sur des films comme... les films de Baz Luhrmann, par exemple, Roméo et Juliette, même si c'est un film qui a maintenant presque 20 ans. Mais c'est un cinéaste qui est venu de la pub, du clip, et qui a adopté, comme beaucoup d'autres de sa génération d'ailleurs, cette esthétique-là au niveau du montage. Et puis parfois, avec certains cinéastes, un peu la crainte que le spectateur s'ennuie si le plan fait plus de 4 ou 5 secondes. Donc une volonté aussi de maintenir constamment, parfois à l'excès, comme vous le disiez, l'attention du spectateur uniquement par une sorte de bombardement de plans bref. Là, mais pour autant, les dialogues sont toujours aussi abondants. Donc du point de vue du sous-titrage, les choses se compliquent parce qu'il faut rendre compte, autant que faire se peut, du contenu des dialogues et d'essayer de combiner des choses qui, a priori, sont incompatibles, c'est-à-dire le temps de lecture suffisant du sous-titre avec des plans qui, eux, sont très brefs.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, de ce que vous nous racontez, c'est que la structure des pratiques de doublage et de sous-titrage, elle n'a pas tant changé, en fait, depuis un certain nombre d'années. Elle a été... Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas si c'est une bêtise, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle était insensible, ou du moins relativement insensible, à l'arrivée de nouvelles technologies dans les studios, par exemple ?
C'est moins une question, à mon avis, d'être insensible que d'adaptation. Et on a cherché plutôt à adapter les nouveaux outils qui arrivaient à un rythme irrégulier, d'ailleurs, pour la confection du doublage ou du sous-titrage. C'est plutôt l'arrivée de nouveaux outils qu'on a réussi à adapter à un certain processus. Mais fondamentalement, ça n'a pas changé.
Et donc pas l'inverse, en fait, hein ?
Oui, c'est plutôt ça. Oui, c'est plutôt la manière de faire qui n'a pas changé, mais en intégrant des nouveaux outils à un processus qui, lui, est resté inchangé. Pour vous donner un exemple, et puisque je ne suis pas allé au bout de ma description de la réalisation du sous-titrage...
Effectivement, oui.
Donc aujourd'hui, je disais qu'il y avait cette étape de repérage sur laquelle je me suis beaucoup étendu. Vient ensuite la traduction, puisque les données établies par le repérage permettent au traducteur de convertir la durée de chaque futur emplacement de sous-titre en un certain nombre de caractères pour la traduction. Et ensuite, ça permet de reporter à l'écran les fameux sous-titres rédigés en étant quasiment sûr que le temps de lecture sera bon. Et pour vérifier ce temps de lecture, il y a une troisième phase qui s'appelle la simulation, qui permet justement de simuler une projection du film devant un public, mais où n'assiste qu'un technicien de laboratoire et le traducteur et le client donneur d'ordre aussi, qui est le distributeur. Et pendant cette phase-là, on voit le résultat final, mais on peut encore intervenir grâce aux outils informatiques et vidéo d'aujourd'hui pour déplacer légèrement un sous-titre s'il arrive trop tôt ou trop tard, ou corriger une coquille qu'on aurait laissé passer, ou des choses comme ça. Ce processus en trois phases du sous-titrage, repérage, traduction, simulation, n'a pas toujours fonctionné comme ça. Pendant les 20 premières années environ du sous-titrage, 20-25 premières années, on faisait d'abord la traduction, et ensuite on repérait les endroits où on allait mettre cette traduction. Donc ça donnait des choses qui n'étaient pas toujours très très précises du point de vue de l'apparition d'un sous-titre avec le personnage qui parlait. On pouvait avoir un peu de flottement, un synchronisme, puisque le synchronisme est très important en sous-titrage aussi, pas seulement en doublage. C'était un synchronisme plus flottant.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Cette semaine, le format est quelque peu spécial puisqu'il s'agissait de la première partie de notre entretien avec Jean-François Cornu à l'occasion de la parution de son livre aux presses universitaires de Rennes, « Le doublage et le sous-titrage, histoire et esthétique » paru au mois d'octobre 2014. Rendez-vous la semaine prochaine sur le 88.4 de Radio Campus Rennes pour retrouver la suite de cet entretien.